littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Transformation et évolution des mythes fondateurs. Jean-Paul Demoule, Joseph Béhé, Pierre Bordage. Modération, Valérie Mangin.
Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde autour des transformations et des évolutions des mythes fondateurs. Je suis Valérie Mangin, je suis scénariste de bande dessinée. J'ai moi-même pas mal travaillé sur la mythologie. Mais aujourd'hui, je vais laisser la parole tout d'abord à Joseph Béhé, qui lui aussi est auteur de bande dessinée depuis 1989. Et depuis 1997, il est aussi un professeur à la Haute École des Arts du Rhin. Mais ça ne l'a pas empêché de collaborer à nouveau avec Franck Giroux en 2001 sur le Décalogue. Et puis a continué ensuite à créer la première école d'images narratives en ligne, aujourd'hui l'Iconographe. En 2007, il a cofondé des associations d'auteurs et un groupement BD au Snack. Donc vous êtes très, très investi socialement également. Et vous avez continué votre œuvre à écrire des romans graphiques avec Amandine Laprin et Erwan Surcouf. Et c'est pourquoi vous êtes surtout là aujourd'hui. En 2021, donc, vous avez publié une adaptation bande dessinée de l'essai « Et l'homme créa les dieux » de Pascal Boyer chez Futuropolis. Donc, à côté de lui, Jean-Paul Demoule. Jean-Paul, vous êtes professeur émérite d'archéologie à l'Université de Paris 1 et à l'Institut universitaire de France et ancien président de l'INRAP. Vous avez mené des fouilles en France et dans les Balkans. Vous êtes un spécialiste du néolithique et de l'histoire, du rôle social de l'archéologie. Et vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages, dont parmi les plus récents, les 10 millénaires qui ont fait l'histoire, une histoire des civilisations, etc. etc. Et enfin, Pierre Bordage, que je ne sais pas si j'ai encore besoin de le présenter. Donc, Pierre Bordage, vous avez écrit plus d'une soixantaine de romans et de nouvelles, dont Les guerriers du silence, qui vous a propulsé sur le devant de la scène dès le début des années 90, suivi de Wang, effectivement. Et vos œuvres ont été distinguées par un très grand nombre de prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire, le Prix Verlanger, le Prix de la Tour Eiffel, entre autres. Vous êtes fidèle à la littérature de l'imaginaire, vous en avez un peu exploré tous les genres, le space-opéra, l'anticipation, la fantasy, le fantastique, le post-apocalyptique. Et votre dernier cycle, Métro Paris 2033, est une œuvre sombre et baroque, ce qu'on dit, en trois volumes. Donc, et vous avez même été président des Utopiales ici même, de 2010 à 2011. Et vous avez même reçu la médaille d'honneur de la ville de Nantes. 2001, pardon. 2001 à 2011. Vous avez même reçu la médaille d'honneur de la ville de Nantes. Donc, donc je vais peut-être commencer un peu avec vous. Vous m'avez dit par mail vous sentir plus proche d'Homère que de Jules Verne.
Oui.
Et donc je vais peut-être vous demander de nous raconter le mythe fondateur par excellence pour vous.
Je vais parler du mythe de Gilgamesh, mais ce qui m'a motivé... Pourquoi je dis que je suis plus héritier de Homère que de Jules Verne, c'est parce que quand j'étais enfant, je lisais des mythologies et pas du tout de science-fiction. La science-fiction, je l'ai découverte à l'université à l'âge de 18 ans. Mais je m'étais nourri énormément de contes et légendes et de mythologies du monde entier. Donc j'étais vraiment bercé par les mythologies. C'est ce qui m'a formé plus que les auteurs de science-fiction. Alors j'ai parlé du mythe de Gilgamesh parce qu'il rassemble plein de choses intéressantes, me semble-t-il. D'abord, c'est un mythe sur l'immortalité, la recherche de l'immortalité, qui est un thème abondamment utilisé en science-fiction. La recherche de l'immortalité est un des grands thèmes de SF. Ensuite, parce qu'il parle du déluge, donc c'est aussi un mythe qui, comme la Bible, raconte l'histoire du déluge, mais de façon indirecte, mais très intéressante. Et enfin, c'est une grande histoire d'amitié parce que le roi Gilgamesh perd son ami Enkidu. Je ne vous raconte pas les détails, hein, juste le résumé. Perd son ami Enkidu et il se désole et il veut absolument le rendre à la vie, donc de trouver l'élixir ou la plante d'immortalité. Et donc, il va se mettre en quête pour rechercher cette plante et il va aller jusqu'à un endroit où il y a eu un déluge et il va être guidé par un monsieur qui s'appelle Utanapastim. C'est pareil, ok. Et donc, il lui indique que la plante d'immortalité se trouve au fond des océans. Donc, il va plonger, chercher cette plante. Il va revenir avec la plante. Épuisé, il va s'endormir. Et c'est le serpent qui, pendant son sommeil, avale la plante et devient immortel. Donc, ce mythe brasse vraiment plein de choses. Et La preuve qu'il a intéressé la science-fiction, c'est que Silverberg, l'auteur américain, a écrit un livre qui s'appelle Gilgamesh, qui reprend le mythe sous forme de roman. Je pense que c'est un mythe qui inspire énormément de monde.
Oui, alors on pourrait citer évidemment beaucoup d'autres mythes, les mythes autour de la fondation de Rome, par exemple, de Romulus et Rémus et de la Louve, ou les mythes d'Adam et Ève pour toute la chrétienté. On a l'impression un peu que tous les peuples ont eu leur mythe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est simplement parce que nous sommes des animaux sociaux que nous avons des mythes?
Je pense que pour faire communauté, en général, tous les groupes ont des mythes fondateurs. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont forcément vrais et qu'ils sont forcément bons. Donc moi, je me suis en partie intéressé au mythe de l'histoire de France en particulier, puis un mythe plus général que j'ai appelé le mythe indo-européen, le mythe fondateur de l'Occident. Mais pour prendre quelques exemples pour l'histoire de France, par exemple, on fait commencer la France avec Clovis et le baptême de Clovis. Et le pape Jean-Paul II, en venant au Bourget il y a quelques décennies, avait dit: France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Mais quand on regarde à la fois l'histoire et l'archéologie, le baptême, il est censé avoir lieu entre 496 et 500 à peu près de notre ère. Mais l'Empire romain, dont la Gaule, est déjà chrétienne depuis plus d'un siècle par l'édit de Théodose. C'est-à-dire que toutes les autres religions sont interdites. On a transformé les temples gréco-romains en églises, etc. Donc l'Empire est chrétien. Clovis, en arrivant avec sa bande de guerriers depuis l'actuelle Belgique à peu près, ben, il ne fait qu'en se convertissant, il ne fait que s'intégrer dans le tissu urbain, le réseau des évêques gallo-romains. Et symétriquement, nous, en archéologie, on voit que les rites païens vont quand même continuer pendant encore deux ou trois siècles. Quand on fouille les cimetières, les nécropoles, ben on a toujours des rituels païens. Et d'ailleurs, le christianisme va être obligé de se calquer un peu, d'intégrer le paganisme avec le culte des saints, le culte des reliques, etc., en reprenant certains anciens lieux de culte. Et c'est contre ça, d'ailleurs, que la réforme protestante va se révolter, va demander justement qu'on revienne au texte fondateur. Et si je prends le mythe indo-européen, c'est l'idée du fait que toutes les langues de l'Europe et d'une partie de l'Asie appartiennent à la même famille linguistique dite indo-européenne. Elles sont plus proches entre elles qu'elles ne sont des langues sémitiques, des langues chinoises, etc. On en a déduit dès le 19e siècle qu'il y avait un petit peuple héroïque qui était parti d'un endroit quelconque de l'Eurasie et qui était parti à la conquête du monde, et que de même que l'Empire romain avait donné naissance à toutes les langues romanes actuelles, italien, l'occitan, le portugais, etc. De même, ce peuple conquérant aurait donné naissance à toutes les langues dites indo-européennes, c'est-à-dire slaves, germaniques, romanes, indo-iraniennes, etc. Or, en fait, quand on regarde vraiment les données de l'archéologie, on ne voit pas la trace d'une telle invasion. En revanche, effectivement, c'est un mythe fondateur qui a été même détourné complètement par le nazisme, qui a dit les vrais indo-européens, puisqu'en allemand, indo-européen se dit indo-germain, indo-germanen, c'est nous les vrais. On est parti du nord de l'Europe et à la conquête du reste de l'Europe, mais malheureusement, c'est un peu abattardi dans les différentes régions, donc il faut restaurer la pureté originelle. Donc, c'est le programme qu'ils ont appliqué. Alors ça ne veut pas dire que la linguistique a tort, là, c'est effectivement un bon exemple de famille linguistique qu'on peut suivre en plus sur 4500 ans à peu près. Les plus anciennes langues étant connues, le grec, le hittite et le sanskrit, mais que ce modèle-là invisionniste n'est pas le bon, qu'il faut réfléchir à des modèles plus compliqués que l'arbre généalogique, penser à des modèles en réseau, en rhizome, etc., qu'on a d'ailleurs tout autant pour l'histoire de l'humanité, puisqu'on raisonnait avant, évidemment, on avait Adam et Ève, qu'on a vu passer un moment sur l'écran. Ensuite, on a cette fameuse ligne où on voit le singe qui se redresse et qui finit avec l'homme blanc et barbu. Mais depuis un certain nombre d'années, on sait qu'il y avait plein d'espèces humaines et qu'elles n'ont pas arrêté de se croiser, que dans cette salle, on a des gènes de néandertaliens, qu'en Asie, on a aussi des gènes d'une espèce qui s'appelle Denisova, qu'il y a 100 000 ans, il y avait au minimum 6 ou 7 espèces humaines qui ont déjà été identifiées, il y en a sûrement plus, et qui n'ont pas arrêté de se croiser, de se métisser entre elles. Et donc, globalement, souvent, on a dans tous ces mythes, cette idée de l'origine, le mythe de l'origine, du point, du début, et après ça continuerait soit en ligne, soit en arbre, mais jamais en mélange. Mais la réalité, à chaque fois historique, archéologique et même linguistique d'ailleurs, il y a plein de langues mélangées. L'anglais est un mélange de langues germaniques et de français. L'ordre des mots, tous les mots abstraits viennent du français. Il n'y a plus de déclinaison, etc. Donc voilà, ces promenades que j'ai faites dans les mythes. On a besoin de mythes, mais autant qu'ils ne soient pas complètement faux. Et notre devoir d'archéologue et d'historien, c'est d'expliquer aux gens, ben voilà ce qui s'est réellement passé dans l'état actuel des connaissances. Donc, croyez ou ne croyez pas, mais sachez-le.
Je peux vous poser une question ?
Oui. Allez-y. Ouais,
à quelle période vous pensez que ce mythe de l'indo-européen s'est installé dans la conscience collective ?
C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'on s'aperçoit...
C'est un mythe moderne, donc ?
Oui, c'est un mythe moderne. Et c'est un mythe qui a une fonction aussi... très précise, c'est que les Européens étaient dans une situation que j'ai qualifiée de schizophrénique, parce que tous les peuples ont justement un mythe d'origine qui raconte que chacun a été créé par des dieux, qu'ils sont les meilleurs et que les autres sont autour d'eux sont beaucoup moins bien. Mais le mythe d'origine des Européens de l'Ancien Régime, c'est la Bible. Or, la Bible, ils la doivent aux Juifs, et les Juifs, c'est les pires ennemis de l'intérieur. C'est ceux qu'on va massacrer dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a la peste, etc. Et ça n'a pas arrêté depuis. Donc, c'est une situation intenable. Et on voit bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, même des gens éclairés comme Voltaire et d'autres disent, mais non, on n'a pas besoin de ça, au fond... Il commence à rechercher cette idée qu'on ne vient pas de ces gardiens de chèvres et de dromadaires du Proche-Orient, mais notre origine, ça doit être l'Inde, la sagesse hindoue. Donc il y a une espèce de mythe de l'Inde qu'on découvre avec la colonisation française et anglaise à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça...
Est-ce que vous faites une différence entre ces mythes modernes qui apparaissent quasiment à l'époque industrielle et les mythes très anciens ?
Oui, c'est-à-dire on pourrait trouver tout l'intermédiaire depuis effectivement les mythes comme Gilgamesh dont tu as parlé et d'autres qu'on trouve dans toutes sortes de mythologies, et puis des mythes modernes comme les mythes nationaux, justement, les Gaulois dont on n'a pas encore parlé, les Clovis, etc. Mais il y a une continuité. Enfin, on en trouverait intermédiaire. Par exemple, les rois de France prétendaient descendre de un certain Francus qui aurait été un rescapé de la guerre de Troie pour s'ancrer justement dans quelque chose, dans Homer précisément, pour se donner un peu plus de légitimité que la bande de soudards germaniques qui ont déboulé avec Clovis.
Oui. Est-ce qu'on crée encore des mythes aujourd'hui ? Vous parliez de mythes néo 19e siècle, mais est-ce qu'au 20e, est-ce qu'à notre époque, on a encore créé très récemment des mythes ?
J'ai eu l'occasion d'entrer dans la discussion ces derniers mois autour d'un livre qui s'appelle qui a un très gros succès, qui s'appelle Les 10 Sapiens, et qui a donné lieu à un jeu vidéo et un documentaire qui est passé à la télévision il y a 2-3 semaines. L'idée qu'à l'origine c'est les femmes qui avaient le pouvoir, on était dans une société matriarcale, Et il y avait une grande déesse originelle, etc., etc. Et donc, on est un certain nombre d'archéologues à avoir dit que les choses étaient plus compliquées, que ce n'est pas parce qu'on représente à la préhistoire essentiellement des femmes, en général nues et au caractère sexuel et exagéré, que c'est pour ça que les femmes avaient le pouvoir. C'est un mythe qui, lui, commence au XIXe siècle, mais continue aujourd'hui, et qu'il vaut mieux pas défendre des causes justes avec des arguments qui sont insuffisamment étayés.
Et ces mythes sont créés, j'imagine, à notre époque contemporaine pour qu'on y croit. Ils se veulent baser sur la raison et la science, finalement. C'est très différent de ce qui pouvait exister dans les mythes anciens, où finalement, c'était plus... On peut se demander si les Grecs anciens croyaient vraiment à leurs mythes.
Oui, c'est un célèbre livre de grand helléniste Paul Vein. Et de même, sur les Romains, mon collègue et ami John Scheid a écrit un livre à peu près sur le même thème, qui dit quand croire c'est faire, ou quand faire c'est croire, je ne sais plus. Enfin, que justement, dans les religions grecques et romaines, mais aussi dans d'autres types de religions, je pense par exemple au shintoïsme au Japon, ce qui compte, c'est de faire, c'est pas une espèce de rapport comme ça personnel à la divinité, c'est de faire les bons gestes au bon moment. Le christianisme orthodoxe, qui n'a pas eu justement la réforme protestante, est resté un peu dans cette idée. Il faut faire les bons gestes, il faut s'incliner quand on prononce le nom
rituel,
de Dieu. Pardon ?
C'est des rituels.
Oui, c'est ça. C'est les rituels qui comptent beaucoup plus que la croyance. Cela dit, la plupart des sociétés humaines baignent et quand même dans le surnaturel ou l'irrationnel. Et même nous, il n'y a jamais autant d'horoscopes dans les journaux. Donc, des sociétés qui seraient complètement rationnelles, laïques, etc., je n'en connais pas, d'autant plus qu'il y a des tas d'activités dans notre quotidien qui ne relèvent pas de la pure rationalité. D'abord, on contrôle plus ce qui se passe dans un ordinateur ou dans une voiture, de toute façon, alors qu'avant, on contrôlait ce qu'il y avait dans une charrette. Et d'autre part, effectivement, il y a notre rapport à la musique, à l'amour, etc., ne relève pas de la stricte rationalité. Donc il n'y a pas de société complètement rationnelle jusqu'à présent, en tout cas.
Et pas de société sans mythe. Donc c'est un peu le sujet auquel s'était attaqué Pascal Boyer dans « L'homme créa les dieux ». Tu peux peut-être nous en parler, Joseph ?
On attend.
Suspense, voilà. Bon, c'est bon.
Oui, donc je vais peut-être proposer une contre-histoire, si on veut, beaucoup plus générale, dans laquelle il n'y a aucun fait historique, aucun fait théologique ou aucune référence philosophique. Boyer, l'anthropologue Boyer, parle dans son livre... parle d'une caractéristique humaine qui est de s'échanger des informations, caractère vraiment extrêmement puissant, puisque grâce en plus à la parole, et donc ce soit pour obtenir de la nourriture, pour assurer la reproduction, pour développer une culture, des distractions, l'information est un des vraiment des milieux spécifiques de l'homme, et on pourrait presque dire que c'est sa niche écologique. Et ce comportement crée une gigantesque masse d'informations qui se transmet à travers les siècles. Alors, on échange des informations à propos de ce que l'on sait, de ce que l'on voit, de ce que l'on pourrait faire, de ce que l'on aurait dû faire, toutes ces choses qui sont soit vraies, soit découplées du réel dans la fiction. Pour raconter de la fiction aussi, on échange des informations. Et donc on a là une gigantesque masse d'informations Donc certains messages sont oubliés aussi vite qu'ils sont donnés. Hein, de se rappeler qu'il faut chercher le pain, voilà, ça c'est pas des choses qui vont rester très longtemps. Ou des choses, voilà, on ne sait pour quelle raison, qui sont négligées ou mal compris, qui passent de l'un à l'autre en étant à peine. Et il y a certaines informations qui vont passer d'une personne à l'autre en étant à peine déformées. Ou si elles sont déformées, elles vont être ensemencées avec des correctifs. Et donc, on aura dans cette gigantesque masse d'informations, donc vu de loin, ça paraît comme une espèce de formidable soupe de représentations, de concepts, de messages. Et dans cette soupe, il y a des grumeaux. Dans cette soupe, il y a des grumeaux et ce sont des bribes d'informations qui apparaissent sous des formes assez similaires à différentes époques et un peu toujours les mêmes. Donc, les concepts et les comportements religieux en font partie. On trouve ces thèmes de façon récurrente, non pas parce que forcément c'est spécialement, ça serait spécialement bon ou utile à la société, non pas même pas parce qu'on en aurait spécialement besoin, mais tout simplement parce qu'ils retiennent notre attention. Alors, pourquoi ils retiennent notre attention ? C'est parce que ce sont des violations ontologiques. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand on est face à des personnes, on s'attend à ce qu'elles parlent ou à ce qu'elles échangent des informations dans un langage audible selon évidemment le pays dans lequel on habite. Une personne, on va s'attendre à ce qu'elle parle. Et un chien, on ne va pas s'attendre à ce qu'il parle. Et si le chien parle, c'est une violation des attentes naturelles. Et cette violation des attentes naturelles, c'est quelque chose de très puissant pour notre esprit. Et donc, on va avoir tendance à ce que ces histoires, ces concepts qui peuvent devenir religieux sérieux ou juste de distraction, ludique, ou pour une veillée le soir, ou se faire peur, ou se faire... voilà. Et donc, selon la nature de ces informations, de ces histoires, elles vont perdurer dans le temps, elles vont se régénérer, réapparaître. Partout dans le monde, il y a des esprits, partout dans le monde, il y a des morts qui rendent visite aux vivants. Ce sont des choses qui sont puissantes. Alors, parfois, elles sont élaborées, comme vous avez raconté le mythe de Gilgamesh. Après, elles deviennent élaborées, et aussi parce que il y a un support de texte, hein, qui commence à se faire jour. Donc, c'est un peu ce qui correspond aux doctrines pour les religions, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu plus mieux formatées et qu'elles vont ça va contribuer aussi à les faire perdurer. Mais ce qui les fait perdurer, c'est vraiment leur faculté à exciter notre esprit.
Tout à fait. Et donc, est-ce que tu aurais un exemple comme ça de...
Oui, alors on a par exemple, chez les Nénets, ils ont un concept de statuette intelligente. Qui probablement dure depuis des centaines d'années. Alors moi, c'est Pascal Boyer qui le relate. Hein. Moi, j'ai pas fait les recherches adéquates. Face à ça, on pourrait avoir une position d'historien en essayant de savoir, mais d'où ça vient, comment ils en sont venus à savoir ça. Et il y a une autre position qui consisterait à dire que on s'en fiche un peu de l'origine, parce que peu importe que ces statuettes intelligentes aient été fabriquées par un Nénets particulièrement doué. Hein. Il a inventé ça un beau jour et tout le monde était émerveillé de ce truc-là et ça a démarré. Peu importe si un Nénets l'a vu en songe et puis il se réveille et dit « Ouais, j'ai une idée géniale, les statuettes, on va faire les statuettes. » Peu importe, c'est pas ça qui compte. Peu importe si c'est des extraterrestres qui sont venus chez les Nénets en disant « Voilà, nous venons en amis et nous avons une idée de voilà qui va être géniale. » Ce qui compte, c'est vraiment pourquoi ces histoires sont assez puissantes pour se régénérer, se répéter et être réinventées parfois quand par hasard elles disparaissent.
Oui, donc on voit bien que tous ces mythes servent à souder des groupes et à finalement faire que les hommes fassent société entre eux. Ils veulent qu'ils suscitent l'adhésion du groupe, qu'on y croit selon différentes modalités. Mais que se passe-t-il alors quand ils sont remis en cause? Vous disiez que c'était le travail effectivement des experts et des scientifiques un peu d'expliquer qu'un mythe est un mythe et pas une réalité historique. Mais que se passe-t-il en fait quand on détruit en quelque sorte la croyance d'un groupe? Ça doit être très violent, j'imagine.
Oui, c'est violent. Après, ça dépend du contexte. Si je reprends ma modeste personne pour d'avoir déconstruit le mythe indo-européen dans un gros et épais livre, ça m'a valu toutes sortes d'attaques venant de l'extrême droite, au point que j'ai été obligé de demander une médiation à Wikipédia, etc. Mais j'aurais été déçu si ça n'était pas arrivé par ailleurs. Donc, trêve d'immodestie, effectivement, ça se passe toujours très mal, effectivement, dans le cas. Moi, j'étais le dernier de ma classe à croire au Père Noël, par exemple. Donc la maîtresse avait dit surtout ne lui dites pas. Donc ils se sont précipités pour me le dire. Et ça n'avait aucun sens. J'entends encore mon camarade Jean-François Guay, j'espère que je ne sais pas s'il est dans la salle, qui me disait, mais tu sais, c'est les parents, etc. C'était le meilleur élève. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Il a fallu que je fasse le chemin tout seul plus tard. Et quand, bien longtemps après, ma fille m'a posé la même question, est-ce qu'il existe, et que j'ai essayé de tergiverser, et qu'elle m'a dit, oui, mais papa, la vraie vérité, c'était un des pires moments de ma vie paternelle, d'être obligé de lui expliquer. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que quand vous êtes petit, vous vivez justement dans un univers enchanté, les animaux parlent, le Père Noël apporte des cadeaux, et puis vers 6-7 ans, enfin plus ou moins avancé, pas forcément comme moi qui l'était pas beaucoup, on vous dit ah ben non, tout ça c'est pas vrai du tout, donc c'est pas possible. Ensuite on est obligé de s'accrocher à autre chose, c'est pour ça que effectivement les pires guerres sont les guerres de religion, quand effectivement on va s'entretuer au nom des mythes. Et le monothéisme a sûrement une responsabilité là-dedans, parce que dans les sociétés polythéistes, justement du temps de Gilgamesh ou d'Homère, hein, quand une ville perdait contre une autre, c'est simplement que ses dieux étaient moins forts. C'était pas qu'il n'existait pas, mais l'idée qu'il n'y ait qu'un seul dieu, qui soit le seul dieu vrai et qu'il n'y en ait aucun autre, c'est quelque chose qui apparaît quand l'Empire romain adopte le christianisme à partir de l'empereur Constantin. Et donc à partir de là, effectivement, comme c'est fondamental, c'est les mythes apportent notre rapport au monde, notre compréhension du monde. Si on vous retire ça, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que les pires horreurs ont été commises et continuent à l'être au nom de ça.
J'aimerais rebondir parce que ça ne veut pas dire que forcément les croyances vont être figées. Ce n'est pas parce que le christianisme va arriver et va s'imposer. Alors évidemment, ça va freiner. Et justement, il y a un chercheur, là, j'ai plus le nom en tête, qui oppose deux forces au cours du temps, une fois que les doctrines commencent à s'installer, notamment dans le monothéisme, dans la religion chrétienne. Et donc, il suppose une force... Est-ce que je l'ai là? Oui. Il suppose une force imagiste qui est une espèce de bouillonnement créatif permanent. Donc c'est toujours plein de bruit et de fureur avec des choses graphiques, des choses, des costumes, des chants, des choses émotionnellement très très fortes avec beaucoup de bruit et qui sont en permanence en réinvention. Et puis en face, on a la doctrine qui essaye de contenir ces forces imagistes pour ramener à quelque chose de plus stable et qui puisse faire perdurer l'institution. Et donc, il ne faut jamais négliger ces forces imagistes qui recolorent en permanence les croyances.
Oui, parce que justement, les monothéismes qui étaient censés se fonder sur un seul dieu et il n'y a rien d'autre, ils sont tous en fait polythéistes sous des formes diverses et variées. Tout à l'heure, je parlais du christianisme, donc il va introduire les saints qui sont des sortes de demi-dieux, la Sainte Vierge, contre lequel justement le protestantisme s'est beaucoup élevé. Même dans le judaïsme, il y a toutes sortes de pratiques magiques. Il y avait un musée d'histoire et d'art du judaïsme à Paris. Il avait fait une grande exposition sur anges et démons dans le judaïsme il y a 3-4 ans, s'attirant les foudres justement des associations juives orthodoxes qui disaient que croire en Dieu c'est rationnel, mais dans les démons ça allait pas. Et dans l'islam, bien sûr, ces mouvements radicaux qui sont un peu l'équivalent, le même mouvement de retour au texte un peu qu'a représenté le protestantisme, même si le protestantisme évidemment n'a rien à voir avec ces mouvements terroristes. Mais donc, à Tombouctou, par exemple, quand les islamistes sont rentrés, on a détruit tous les tombeaux des saints musulmans, etc., etc. Et il y a sans arrêt ce travail. Je citais tout à l'heure le christianisme orthodoxe qui est très païen. Donc c'est très difficile d'avoir cette religion complètement éthérée où il n'y aurait qu'un seul Dieu dans lequel on aurait ce rapport direct et il n'y aurait rien d'autre autour.
Oui, en illustration de ce que vous dites, j'avais mis en parallèle la messe d'autrefois et la messe depuis Vatican II, qui est
beaucoup plus triste.
Ouais. Oui, on voit bien qu'on ne peut pas absolument pas se passer de mythes, même si on a tendance effectivement à les déconstruire aujourd'hui et essayer de les expliquer. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait à nouveau qu'on crée volontairement des mythes pour les générations futures, pour les envoyer dans de bonnes directions, enfin des mythes qui pourraient être porteurs d'espoir et de quelque chose de positif et qu'on pourrait contrôler justement dans ce sens?
Il y en a sans arrêt. Hein. Il y a dans ma bonne ville de Nantes, pas plus tard qu'hier, il y avait un idéologue d'extrême droite qui en appelait à une France.
C'est pas ça que je pensais. Alors, est-ce que les progressistes n'auraient pas intérêt aussi à créer des mythes progressistes, justement, pour s'opposer à ceux de l'extrême droite?
Le marxisme, dans sa version originelle, a ce côté un peu comme le christianisme, le grand soir où tout va exploser et après le bonheur va régner sur Terre. Ça reprend un peu la matrice du christianisme. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas abattre le vieux monde, mais ça veut dire que c'est quand même difficile de se sortir de ces manières de faire. D'ailleurs, ça a effectivement mal fini dans ce cas-là, même si il faut continuer à espérer. Et donc, on a aussi, pour revenir à la science-fiction, tous les mythes autour de l'informatique, le transhumanisme, les réseaux sociaux, etc.
Est-ce que vous pensez que les auteurs ont leur rôle à jouer dans la création de ces nouveaux mythes ?
Oui, probablement, mais je voulais revenir sur plusieurs points, parce que d'abord, je suis très déçu d'apprendre que Père Noël n'existe pas. Merci Jean-Paul, tu m'as cassé le moral.
Je fais juste une parenthèse parce qu'il y a eu effectivement une démonstration qui est que si on calcule le temps, la vitesse qu'il lui faut pour distribuer tous les cadeaux, c'est à peu près 1000 km seconde. Et le poids des cadeaux, si on le calcule, c'est en milliers de tonnes. Ouais. Et donc ça supposerait au décollage une sorte d'à peu près 15 milliards de joules, si bien que le traîneau exploserait en fait.
Effectivement.
Mais n'empêche que les cadeaux arrivent dans les cheminées.
Miraculeusement. Donc, voilà. Ouais. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les romans nationaux, qui sont des mythologies concrètes pour justifier sa propre légitimité, et les mythes anciens. Tu as parlé de la Bible tout à l'heure, et la Bible, moi je l'ai lu, j'étais au séminaire quand j'étais enfant. À l'âge de 10 ans, et j'ai lu toute la Bible quasiment. Je l'ai lu comme un roman fantastique, comme quelque chose d'extraordinaire. De la même façon que j'ai lu Homère, comme un roman extraordinaire, tous les mythes, je vous disais tout à l'heure, j'étais vraiment bercé par les mythologies. Et moi, j'ai l'impression que les mythes très anciens, alors je ne sais pas pourquoi, aussi le Ramayana, le Mahabharata, enfin les mythes indiens, appuient sur des points inconscients. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, ça me fait cet effet-là. Ça appuie sur des points inconscients sur lesquels je ne peux pas porter d'analyse intellectuelle, mais qui me m'aident en quelque sorte à focaliser mon énergie. Et c'est vrai que quand je me suis mis à écrire, de toute façon, les auteurs... On parlait du Père Noël et de la croyance au Père Noël. Les auteurs restent des enfants, j'ai l'impression, et veulent cette tendance à croire un peu au merveilleux, ce qui alimente leur imaginaire et leur énergie. Et donc j'ai toujours en fond de moi quelque chose qui me dit « Mais si, il y a des choses intéressantes dans les mythes, c'est pas que des mensonges. » Alors que les romans nationaux sont souvent des montages... mensonger pour faire adhérer les populations à une vision de l'histoire. C'est une forme de réécriture de l'histoire. Les mythes, j'ai pas l'impression les mythes anciens, je parle, j'ai pas l'impression qu'ils réécrivent l'histoire, mais qu'ils déterrent quelque part des morceaux de vérité humaine, des archétypes, et que ces archétypes nous servent, sinon de modèle, au moins de... là, je fais appel aux travaux du mythologue Joseph Campbell, hein, avec le héros mille visages, des sortes de schémas narratifs qu'on peut suivre. Et j'ai l'impression d'être un auteur qui s'est enraciné dans le schéma narratif des mythologies, que je me suis engouffré dans le sillon creusé par ces auteurs très anciens ou ces groupements d'auteurs, parce que la Bible, bon, voilà, on ne sait pas très bien. Mahabharata, on dit que c'est Vyasa, mais c'est combien de personnes, parce que c'est des monuments de littérature. Et je me suis engouffé dans ce sillon, et en me disant, ben voilà, ça a été creusé par les prédécesseurs, c'est confortable, mais évidemment, nos points de perception de l'univers changent avec la science, et donc il y a comme une tentation, une tentative désespérée, rassurez-vous, de réécrire les mythes à la lueur des nouvelles technologies et des nouvelles découvertes. Et ça, cette démarche-là, elle a trouvé son point culminant dans un petit livre que j'ai écrit pour Le Seuil qui s'appelle « Contes des sages d'autres mondes et d'autres temps », qui sont des contes de science-fiction, c'est-à-dire que j'ai pris les thèmes de science-fiction les uns après les autres, le voyage dans le temps, l'intelligence artificielle, le rapport aux robots, la biologie, la biotechnologie. Donc, il y a des fées dans mes contes, mais c'est la fée biologie, hein, biotechnologie. Et donc, de réécrire, de décrire des contes avec le canevas des contes, en utilisant les ressorts de science-fiction. Et ça m'a beaucoup éclairé sur mon travail, finalement, parce que dans les contes, vous allez trouver Barbe Bleue, donc Henri VIII. Vous allez trouver La Belle au bois dormant, ça s'appelle La Belle endormie de l'espace. Donc, c'est des réécritures de mythes avec des outils différents.
Le problème que tu poses, c'est le débat qui existe depuis Jung, qui était le psychanalyste qui s'est fâché avec Freud assez vite et qui pense qu'il y a effectivement des archétypes de la nature humaine et qu'on retrouverait dans un certain nombre de mythes de manière récurrente. Et parallèlement à ça, depuis quelque temps, il y a des anthropologues qui essaient de prendre tous les mythes du monde d'une certaine catégorie. Par exemple, tous les mythes de fondation du monde, et ils en ont isolé, je pense aux travaux de Le Quellec et de Julien Duy. Il y a en gros deux types. Soit les humains sont sortis de terre progressivement, comme ça, ce qu'on trouve en Australie notamment, soit ils ont été créés par une divinité comme chez nous. Et donc, ils essaient de voir à partir de ça, il y a aussi un anthropologue américain qui a essayé la même chose, de voir si on pourrait remonter au paléolithique et si ça pourrait correspondre aux grandes migrations d'Homo sapiens dans ces temps très anciens. Mais évidemment, c'est assez difficile de l'étayer, mais c'est vrai qu'on va trouver beaucoup de ressemblances. Alors après, c'est toujours le même problème. Est-ce que toutes ces ressemblances s'expliquent par une origine origine commune ou au contraire par des contacts permanents.
Je suppose qu'il y a aussi le déluge qui doit apparaître beaucoup.
Oui, 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 le déluge apparaît dans beaucoup de mythologies.
Bah, ne serait-ce que parce qu'il y a probablement eu des inondations un peu partout sur la planète aussi. Hein. Donc, je veux dire, voilà, le fait d'avoir un esprit qui fonctionne à peu près pareil sur toute la planète aide aussi à ce que les mythes soient retransmis facilement, enfin tous les contes et les légendes. Et je me suis permis de mettre en illustration cette idée que effectivement, on a dans notre cerveau, probablement des gens qui travaillent pour nous, des systèmes mentaux multiples et complexes, qui travaillent pour nous en totale transparence et qui font que nous sommes comme des invités dans notre propre tête. Donc nous sommes servis par toute une armada de systèmes cognitifs et qui peuvent parfaitement... collé à cette idée que les mythes font appel à des choses qui sont profondément, profondément enfouies et qui, finalement, peuvent s'expliquer par des
sciences cognitives. Moi, c'est un rapport direct avec ça. Hein. Quand je disais, ça me faisait de l'effet presque dans mon corps. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y avait des points sur lesquels appuyer les mythes. Et je ne sais pas pourquoi. Hein. Je n'ai pas d'analyse du tout là-dessus.
Alors, nous allons devoir nous arrêter là, malheureusement. Oui, justement, j'allais dire que nous allons nous arrêter pour laisser du temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment. Oui.
Le premier qui parle a perdu.
Ben oui, 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 absolument. On est déçus que ça soit déjà fini.
Bonjour.
Le Père Noël n'existe plus.
Oui. Bonjour, merci pour Bonjour. Votre conférence déjà. Je me posais une question à vous entendre, comme vous parlez de Gilgamesh ou autre. Je pense aussi, est-ce que vous pensez qu'il y aura, comme les mythes évoluent, comme le mythe arthurien notamment, qu'on peut voir actuellement avec Alexandre Astier, etc., ou Sacré Graal, est-ce qu'on a des histoires qui, selon vous, aujourd'hui, pourraient devenir des mythes comme, je sais pas, le mythe de Luke Skywalker ou de Harry Potter, plus dans le futur ? Est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que c'est juste des histoires qui fonctionnent bien ?
Je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour que se dégage d'une histoire une possibilité de mythologie. La guerre des étoiles était la première projection de 1977. C'est hyper récent, c'est extrêmement moderne. Donc, je ne pense pas qu'on a eu le temps, de vraiment dégager ce qui pourrait être mythologique dans cette histoire. Mais c'est vrai que George Lucas s'est inspiré de travaux de Joseph Campbell et les a appliqués quasiment point par point. D'ailleurs, j'ai revu récemment Dark Crystal. C'est pareil. C'est exactement pareil, c'est appliqué de la mythologie de l'étude des mythologies de Campbell. Donc, ils se sont eux-mêmes servis des principes mythologiques pour créer leurs histoires. Donc, est-ce que l'élève dépassera le maître ou est-ce que l'histoire moderne dépassera l'histoire ancienne ? J'en suis pas du tout certain, parce que quand on voit la puissance des mythes d'Homère, d'Iliade et l'Odyssée, par exemple, qui perdurent à travers le temps et qui sont d'une lecture toujours aussi pertinente, c'est toujours agréable à lire. Ou le Mahabharata par exemple, ou le Ramayana, qui est une histoire que j'adore, avec des armées de 10 000 éléphants, 10 000 singes, etc., ou Hanuman, le roi singe, franchit d'un bond l'espace entre Sri Lanka et l'Inde, et il y a un dieu de la mer qui se lève disant « Vous voulez vous reposer un peu, Seigneur ?» Il dit « Non, c'est pas la peine, je suis pressé. » Moi, j'adore ce genre de mythe. Bon, est-ce qu'on aura des histoires actuelles, modernes, qui surpasseront ce mythe ? Ces mythes-là, je n'en sais rien. Je pense qu'on manque de recul. Enfin, je ne sais pas ce qu'en penserait Jean-Paul, mais...
Moi, je pense exactement pareil. Enfin, je ne suis pas spécialiste, oui, bien sûr, on a le nez collé au guidon. Là, c'est quelques dizaines d'années, c'est rien du tout. On peut pas savoir ce qui va s'accrocher, qu'est-ce qui va. C'est très, très, très compliqué. Hein.
Oui, bonjour, bonsoir, bonjour. Je ne sais plus. Merci déjà pour la conférence. J'aimerais poser une question. Enfin, depuis tout à l'heure, je regarde ce dessin et je me demande, est-ce que finalement le principe de mythe ne pourrait pas être devenu un acquis génétique, pour reprendre un peu Campbell, comme les mythes se ressemblent un peu partout. Est-ce que finalement, on n'a pas intégré ça au fur et à mesure de l'évolution de notre espèce? Est-ce que ce n'est pas devenu une sorte d'acquis génétique et c'est pour ça qu'on retrouverait finalement les mêmes mythes un peu partout? Ou est-ce que finalement, je postule quelque chose d'un peu, d'un peu étrange?
Vous voulez dire commun à l'espèce?
Ouais, voilà.
Que les mythes sont communs à l'espèce, donc il y aura une sorte de communauté génétique qui
explique. Je sais pas.
Oui, non plus, mais bonne question.
Ouais, d'accord, ok, très bien. Très bien.
Je ne sais pas tout à fait précisément, mais.
Est-ce que finalement, on n'aurait pas, au fur et à mesure du temps, acquis cette sorte de principe en nous-mêmes et que.
Déjà, ce qui est marrant, c'est effectivement que c'est que tous les peuples de tous les pays, de tous les temps, ont créé des mythes, des mythologies, chacun de leur côté. Certaines se ressemblent, certaines. Pour quelle raison Est-ce qu'il y a une explication à ça, historique?
Il y a une explication qui est. Enfin, pas une explication, mais une partie de l'explication dans le livre de Boyer, où, par exemple, il parle de le pari du prédateur. Alors, le pari du prédateur, c'est vous êtes dans la forêt, vous entendez un bruit. Est-ce qu'il vaut mieux penser que c'est juste une feuille ou une branche qui tombe, ou est-ce qu'il vaut mieux penser que ça pourrait être un animal sauvage qui vous a repéré et qui vous veut du mal? Un agent, donc, mais là, en l'occurrence, animal, qui pourrait vous vouloir du mal. Donc, pour survivre, il vaut mieux faire le pari du prédateur. Et quand on fait le pari du prédateur, on se sauve, on dépense certainement de l'énergie, souvent pour rien, mais ça permet aussi éventuellement de survivre. C'est ce qui pourrait, je reste toujours au conditionnel, en plus je ne suis pas scientifique, donc c'est ce qui pourrait expliquer que la nuit chez vous, quand vous entendez du bruit, le premier réflexe c'est de penser que peut-être quelqu'un a ouvert la porte ou qu'il y a peut-être quelqu'un. C'est le monstre dans le placard, pour les enfants. C'est le premier réflexe c'est de penser qu'il y a un agent, c'est-à-dire quelque chose, une entité, un esprit qui est capable de peut-être de vous voir, de vous sentir et de prendre la décision de vous attaquer. Donc le pari du prédateur. Alors ça a une conséquence, par exemple, c'est que vous connaissez ce phénomène de l'appareil de lit. Donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à un visage, vous l'associez à un visage très, très facilement. Dans la pénombre d'une forêt, des formes mouvantes sont vite identifiées comme un animal ou comme quelque chose de vivant qui bouge. Donc ce pari du prédateur, il est toujours un peu là. Et donc, qu'est-ce qui est génétique là-dedans? Peut-être qu'au fil des millions d'années de chasseurs-cueilleurs, on a sélectionné quelque chose qui va nous faire avoir toujours le pari du prédateur. Et que probablement, ça va faciliter la croyance en des formes, en des esprits ou des gens qui viennent nous hanter facilement. Parce que la nuit, on entend du bruit. Il suffit que, je veux dire, le nombre de témoignages de gens qui ont perdu quelqu'un la semaine précédente et qui, dans la semaine qui ont suivi, ont entendu des bruits, ont entendu une présence ou ont senti une présence proche. Donc, même si c'est pas génétique, même si les mythes ou la fabrication de ce type d'histoire n'est pas forcément génétique, il y a suffisamment de mécanismes qui ont été sélectionnés génétiquement et qui vont favoriser les croyances. C'est dans le livre de Boyer. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste.
On va s'arrêter sur ces bonnes paroles.
Merci.
Face any future.
podcast des Utopiales. Utopiales 2021.